Chapitre 4. C'était sur les distractions du voyage, le mouvement, la fatigue que M. de Chambray avait compté pour occuper Ghislaine. Mais ce qui, plus que ces distractions, plus que le mouvement, le changement, le nouveau, la fatigue, occupa Ghislaine et l'arracha à elle-même, ce fut la tendresse qu'elle trouva chez son oncle. Depuis qu'elle était orpheline, il s'était montré le meilleur des parents, assurément, bon, prévenant, indulgent, affectueux, mais avec l'acuité de sentiment d'un cœur inquiet qui exige tout, précisément parce qu'il n'a rien. Elle avait très bien démêlé qu'il ne se donnait pas entièrement comme elle l'aurait voulu. Qu'il vînt déjeuner à Chambray comme il lui en faisait la fête assez souvent, il n'oubliait jamais l'heure du départ. Toujours, il avait les meilleures raisons pour entrer à Paris, des rendez-vous pris, on l'attendait, une affaire importante. La prochaine fois, il s'arrangerait pour rester plus longtemps, mais cette prochaine fois n'arrivait jamais. Malgré son affectueuse bonté, il était oncle, comme elle n'était pour lui qu'une nièce et non une fille. Mais fille, elle était devenue le jour où ils avaient quitté Paris pour Bruges, et dans la douceur de se sentir enveloppée d'une tendresse qu'elle avait si longtemps appelée sans la trouver telle qu'elle l'imaginait, son angoisse nerveuse s'était fondue. Elle n'avait point douté de lui quand il avait dit que l'oncle, désormais, ferait place au père. Mais ce n'étaient que des paroles qui n'avaient qu'un sens vague pour son cœur bouleversé, tandis que, maintenant, ces paroles étaient réalité. Jusqu'à ce moment, la vie de M. de Chambray s'était partagée en deux parts inégales, l'une tout au plaisir, l'autre tout au devoir. Pendant les 13 années qu'il avait données à sa mère aveugle, l'accompagnant partout, ne la quittant pas du matin au soir, lui faisant la lecture, l'entretenant, la distrayant, l'occupant, il avait pris des habitudes de sollicitude, de prévenance, de petits soins qui lui étaient instantanément revenus auprès de Ghislaine. Dans ce rôle, l'homme de plaisir eût été mal placé, mais l'homme de devoir fut tout de suite à son aise. Il n'eut qu'à se souvenir. Cependant, ce ne fut pas sans un sentiment de regret qu'il quitta Paris, et quand, dans la gare du Nord, se promenant devant le coupé qu'il avait fait retenir, il se demanda quand il reviendrait, il eut un moment de contrariété et de mélancolie. Il ne ferait donc jamais ce qu'il voudrait. Toute sa vie, il serait esclave. Et quand la liberté lui serait rendue, si jamais elle l'était, la vieillesse l'empêcherait d'en profiter. Mais ce souci personnel ne tint pas contre le regard inquiet de Ghislaine. Ce n'était pas à lui de l'attrister. Aussitôt, il monta près d'elle et ne s'occupa plus que de l'installer avec les attentions et les précautions d'un habitué des voyages. « Sais-tu, mignonne, dit-il, que notre excursion va être un plaisir pour moi ?»« Vraiment ? Vous êtes trop bon, mon cher oncle. » Mais pas du tout, ce que je te dis est sincère. C'est la première fois que tu sors de Paris, tu vas ouvrir des yeux grands comme ça, et je vais jouir de tes étonnements. Je t'en prie, ne sois pas correcte, et si tu peux redevenir enfant, laisse-toi aller. Surtout, questionne-moi. Je ne suis pas bien savant, et quand nous serons devant les chefs-d'œuvre des peintres flamands et hollandais, il ne faudra pas me demander des dates, mais je peux encore cicéronner. Tu me diras ce que tu penses, ce que tu sens, et ce me sera une joie de voir tes idées s'éveiller. Quoi de plus charmant qu'une aurore ?» Il s'arrêta, car plus d'une fois, pour expliquer et justifier la vie sévère imposée à la jeunesse de Ghislaine, il lui avait dit que cette sévérité tenait à de certains scrupules. Il voulait réserver à un mari aimé la joie de lui montrer le monde. Comment évoquer un pareil souvenir en ce moment? Comment faire allusion à un mari ou un mariage? Ce mariage, c'était celui qu'elle avait accepté si franchement. Ce mari, c'était le comte d'Unière. Tout ce qui pourrait les évoquer serait une blessure. Qui pouvait savoir le chemin qu'en quelques jours ce projet avait fait dans cette imagination et dans ce cœur de jeune fille? Pour combien l'anéantissement de l'avenir qu'elle s'était bâti entrait-il dans son désespoir? Car pour elle, ce mariage qu'elle désirait était rompu, et ce mari qu'elle aimait déjà, peut-être était perdu. Tout ce qu'il aurait pu dire à ce sujet eût été aussi inutile que dangereux. Si ce projet pouvait être jamais repris, ce qu'il ignorait lui-même, ce ne serait que plus tard. Pour le moment, le silence seul convenait à cette situation, et c'était dans un silence absolu qu'il devait se renfermer en attendant. Le train filait. À droite se découpaient sur le bleu du ciel les hautes cheminées et les combles du château d'Écouen. À gauche, c'était Chantilly, ses étangs, sa forêt, son château. Les sujets de causerie s'enchaînaient, et Gisèle n'avait le temps ni de revenir en arrière, ni de réfléchir. Elle l'eut bien moins encore à Bruges, à Ostende, où pour la première fois elle vit la mer, à Anvers, où les Rubens de la cathédrale et les Metzis du musée ouvrirent à son esprit tout un monde nouveau. Le voyage se continua lentement. Aux rives vertes de l'Escaut succédèrent celles non moins vertes et non moins douces de la Meuse. Aux éblouissements des Rubens, les révélations des Rembrandt, de la Haye et d'Amsterdam. Chaque soir, M. de Chambray, en faisant l'examen de la journée écoulée, s'applaudissait d'avoir eu cette idée de voyager, car chaque soir, il la trouvait plus calme que la veille, plus reposée. Évidemment, la distraction et la fatigue opéraient sans qu'elle en eût conscience. Ce n'était pas seulement une distance matérielle qui l'éloignait de Chambray, c'était encore une distance morale. L'angoisse des premiers moments s'affaiblissait. À la vérité, lorsqu'elle venait le matin se mettre à sa disposition pour partir en excursion, il remarquait en elle, bien souvent, sous son visage ou dans son attitude, des traces évidentes de trouble. Des plis aux fronts et aux lèvres, des contractions de paupières, une profondeur de regard qui disait que son sommeil avait été agité, mais il lui semblait que ces plis étaient maintenant moins profonds qu'en quittant Paris, et comme pendant la journée il s'effaçait peu à peu, il se disait que bientôt il disparaîtrait entièrement si des complications ne se présentaient pas. C'était un grand point obtenu que cette amélioration continue est telle qu'on pouvait espérer la guérison dans un délai donné, mais il y en avait un autre plus grave qui restait et devait rester douteux pour quelques semaines encore. Père, il avait pu le devenir. Mère, il ne le pouvait pas. Et il y avait certaines questions qu'une mère seule aurait su adresser à cette jeune fille. Condamné au silence, il en était réduit à l'observer pour tâcher de deviner ce qui était impossible à demander, mais encore, était-ce avec une extrême réserve, car lorsqu'il la regardait un peu trop franchement, il était sûr de la voir aussitôt troublée et mal à l'aise, confuse et honteuse pour plusieurs heures. Ce n'était donc à la dérobée qu'il pouvait chercher en elle un indice qui fût une lumière, et s'il s'en trouvait un plus ou moins caractéristique, il ne l'acceptait jamais sans hésitation. Parce que ses yeux s'entouraient quelquefois le matin d'un cercle bistré, parce que son regard avait perdu de sa vivacité, parce que sa peau se décolorait, en résultait-il nécessairement qu'il devait croire à une grossesse? Et des raisons toutes simples ne se présentaient-elles pas aussitôt à l'esprit pour expliquer ces changements sans se jeter tout de suite aux extrêmes? Si la grossesse pouvait être possible, était-elle probable? Il eût fallu un médecin pour distinguer les nuances qui se présentaient dans ses observations et il était aussi peu que possible, surtout en cette partie de la médecine. Quand il avait remarqué un indice qui lui paraissait offrir quelques précisions, il interrogeait Ghislaine, mais d'une façon si vague que les réponses qu'il obtenait ne pouvaient guère avoir de sens. Qu'elle ne mangea pas à un repas, il lui demandait si elle avait mal à l'estomac, et quand elle avait répondu négativement, il n'insistait pas. Cependant, n'était-il pas bizarre qu'elle ne voulût jamais de bouillon gras et qu'elle ne bût plus de vin? Ne l'était-il pas qu'elle demanda toujours de la salade et des fruits? Se rappelant qu'une de ses amies avait, au commencement d'une grossesse, souffert de névralgie dentaire, il questionna Ghislaine pour savoir si elle n'avait pas mal aux dents. Mais comme il avait surprise de son insistance, il se jeta dans des explications qui n'expliquaient rien du tout. Dans un pays humide comme la Hollande, il est naturel d'avoir mal aux dents. Alors j'avais pensé... Mais je n'ai pas mal aux dents, je vous assure. Tant mieux. Sans doute tant mieux, mais ce n'était qu'un léger soulagement et un mince sujet d'espérance. Si la grossesse se manifeste quelquefois par des douleurs de dents, ce signe n'est pas constant et son absence ne signifiait pas qu'il n'avait rien à craindre. Ghislaine ne souffrait pas des dents, voilà tout. Rien ne prouvait qu'un autre symptôme n'éclaterait pas le lendemain, décisif celui-là. Depuis qu'il était à Amsterdam, leur temps se partageait en visites aux musées, aux collections particulières et en promenades aux environs. Brueg, Zamdan, Alkmaar, le Helder. Ils se faisaient conduire en voiture sur le quai de l'Y, et là, ils montaient dans l'un des nombreux petits bateaux à vapeur prêts à partir. Au hasard, ils verraient bien où ils arriveraient. Un jour qu'ils étaient ainsi embarqués sur un vapeur, sans autre but que de passer entre des rives fraîches et vertes, de chaque côté desquelles s'étalaient d'immenses prairies rayées de canaux, avec ça et là un bouquet d'arbres ou une ferme en briques roses et un grand toit en tuiles noires, ils étaient arrivés à un gros village appelé Monnickendam. Là, M. de Chambray se rappela que c'était l'endroit d'où l'on pouvait le plus facilement partir pour visiter l'île de Marken, et il proposa cette excursion à Ghislaine, qui accepta avec plaisir. Ce serait sa première promenade sur mer. Le temps était beau, la traversée du détroit ne demandait pas en barque plus d'une heure, c'était charmant. La barque quitta le petit port, et bientôt ils se trouvèrent au milieu d'une mer glauque, laissant derrière eux les clochers de Monnickendam, et se dirigeant sur le fanal de Marken, qui, dans une brume légère, se découpait sur un ciel d'un gris tendre. C'était à peine si la légère brise qui soufflait de terre faisait clapoter l'eau. Cependant, Ghislaine ne tarda pas à pâlir et à paraître souffrante. Son regard se troubla. Était-il possible que, par ce calme, sur cette mer tranquille, ce fût le mal de mer? Quand, descendus à terre, ils s'assirent sur la digue qui protège l'île contre les vagues, il interrogea avec une anxiété qu'il n'avait jamais mise dans ses questions. Est-ce que maintenant, quelquefois, tu as mal au cœur ? Elle avoua que depuis quelques jours, le matin en s'éveillant, elle avait des nausées.